France Info.
Bonjour Roland Lescure.
Bonjour à tous les deux.
Le mot est lâché, rigueur. Nous allons poursuivre sur cette voie de la rigueur, a assuré Gabriel Attal hier devant les députés. Traduction, on va se serrer la ceinture.
Il a dit, on va poursuivre sur la voie de la rigueur et de la responsabilité. Vous reconnaîtrez que ça vaut quand même mieux que le relâchement et l'irresponsabilité.
Vous y étiez sur la voie de la rigueur compte tenu de la préparation de ce budget qui a été aussitôt corrigé pour 2024?
En tout cas, depuis 2017, évidemment, mis à part pendant la parenthèse du quoi qu'il en coûte, qui, on va se le dire, a quand même été plutôt une bonne manière de soutenir l'économie française, on a été extrêmement rigoureux. On est sorti de la procédure dite des déficits publics excessifs. Ça faisait des années qu'on était dedans, gauche et droite confondus. On en est sorti avec une gestion rigoureuse.
900 milliards de dettes de plus depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, c'est de la bonne gestion.
Ben, ça fait beaucoup. Il y en a une bonne partie qui est liée aux crises exceptionnelles qu'on a vécues pendant le quoi qu'il en coûte, pendant évidemment la crise énergétique qui est le résultat de la guerre en Ukraine. On a... Je le répète, les autorités internationales qui nous ont sorti d'une procédure dans laquelle la gauche et la droite confondues nous avaient mis depuis des années. Maintenant, il faut qu'on retrouve cette voie. C'est vrai qu'on sort d'une période exceptionnelle dans le cadre de laquelle on a soutenu l'économie française. Il faut qu'on en sorte. On a commencé à le faire. Vous le savez, Bruno Le Maire a annoncé 10 milliards de baisses de dépenses publiques pour cette année.
Oui.
Avant même que ces chiffres soient sortis, c'est un premier signe qui montre qu'on retrouve effectivement la voie de la rigueur et de la responsabilité.
Sauf que la droite vous accuse, je cite, de maquillage des comptes du pays d'une grande gravité. Dès le mois d'octobre, vous aviez une alerte qu'il manquait 30 milliards dans les caisses de l'État. Qu'est-ce que vous répondez à la droite ?
Je réponds que l'irresponsabilité, elle est plutôt dans des oppositions, et notamment la droite dite républicaine, qui a proposé à l'Assemblée, en plein débat budgétaire, des dizaines et des dizaines d'amendements pour des centaines de milliards d'euros de dépenses supplémentaires. Donc les leçons de responsabilité budgétaire, je pense qu'on n'en a pas à recevoir. Est-ce que ça veut dire qu'on a été surpris de la baisse des recettes en fin d'année? Oui, il y a eu effectivement des recettes de TVA, des recettes d'impôts sur les sociétés et des recettes de cotisations sociales en fin d'année qui n'étaient pas en ligne avec ce qu'on attendait. Et c'est pour ça que dès que ces chiffres ont été connus, Bruno Le Maire a annoncé un certain nombre de baisses de dépenses. Et c'est pour ça, évidemment, que dans le cadre de la préparation du budget 2025, on va être rigoureux et responsable.
La rigueur, c'est rarement sans conséquence sur l'activité économique. Est-ce que la politique de l'offre, celle qui consiste à baisser les coûts des entreprises, de l'industrie notamment, Roland Lescure, c'est fini ?
Moi, j'en vois tous les jours les effets bénéfiques de cette politique de l'offre. Aujourd'hui, on est dans une France qui se réindustrialise.
Mais ça, c'est pas ma question. Est-ce que on a encore les moyens de déployer cette politique de l'offre ?
Oui, on va le faire avec rigueur et responsabilité. Mais évidemment, s'il y a une priorité des priorités, c'est de continuer à préparer la France de demain et d'après-demain. C'est que la meilleure manière de régler le problème du déficit public, c'est de réindustrialiser. Si on avait aujourd'hui 2 à 3 points de plus d'industrie dans l'économie française, on serait au plein emploi et on n'aurait pas de problème de déficit public. Donc évidemment, il ne faut pas lâcher l'avenir pour le présent. Il faut être très rigoureux aujourd'hui, mais continuer à préparer demain et après-demain.
Je vous pose la question parce que les montants chez nos concurrents, je parle notamment des Américains, sont absolument faramineux. Les États-Unis, par exemple, ils ont annoncé cette semaine une subvention massive du fabricant de puces Intel de 40 milliards. Est-ce qu'on a encore les moyens, en temps de rigueur, de subventionner ainsi des industries ?
Pour moi, le choix, il est simple. Il faut réduire les dépenses et préserver l'investissement d'avenir. Vous parlez de la microélectronique. On a un champion franco-italien, ST Microélectronique, qui est en train de construire une méga-usine à Crolles, en Isère, qui va produire les microprocesseurs de demain. Et oui, évidemment, on les subventionne, on les accompagne, parce que les microprocesseurs, c'est un des nerfs de la guerre économique de demain. On a besoin d'être plus autonome.
Vous
les États-Unis le font, les Allemands le font, la France le fait.
Vous parlez de demain, mais l'État qui est aux côtés des industries pour la transition écologique, ces entreprises, ces industries disent, avec cette rigueur que vous prenez ce matin, cette responsabilité, cet accompagnement pourrait baisser au fil des années ?
Vous savez que donc c'est Global Industrie cette semaine. C'est un peu mon salon de l'agriculture à moi. Il y en a qui vont tâter le cul des vaches. Moi, je vais tâter le cul des machines à Villepinte. On a profité de ce salon pour annoncer, et je vous l'annonce aujourd'hui, la sortie d'un nouveau baromètre industriel de l'État. Moi, quand j'ai été nommé ministre de l'Industrie il y a un an et demi, je n'avais pas de mesure objective, exhaustive, de cette réindustrialisation. Ce baromètre, il est disponible depuis aujourd'hui, ce matin. Qu'est-ce qu'il nous dit ? 201 usine en plus ou agrandissement d'usine en plus. On mesure tous les ans.
Depuis quand ?
En 2023. En 2022, c'était 176. Donc moi, je suis arrivé en 2022. J'ai dit, je veux qu'on mesure de manière exhaustive les ouvertures d'usines et les augmentations de lignes de production. Évidemment aussi les fermetures d'usines. Voilà. Et les fermetures de lignes de production, et on fait le bilan entre les deux. Le bilan en 2023, c'est 201 augmentations avec 57 nouvelles usines et 144 augmentations de lignes de production. On a dans le textile,
et vous rendez compte. Le nombre de fermetures ?
Eh bien, on a en net 200 ouvertures de plus qu'on a de fermetures. Le secteur du textile, ça fait des décennies qu'on désindustrialise la France du textile. Roubaix, Le Nord. On a créé 20 usines de plus dans le textile. On a Petit Bateau qui augmente ses lignes de production. On a le Coq Sportif qui va être présent au JO, qui habille nos sportifs. On a le Slip Français qui est une entreprise française exceptionnelle. On installe des usines en France. Ce sont des bonnes nouvelles.
Donc on ouvre donc, des usines, mais ma question portait sur la transition écologique. On a le plan France 2030.
Et donc,
des milliers, des milliers d'euros, 54 milliards sur la table.
Et qui sont préservés. Pourquoi ?
On ne peut pas y toucher.
Mais non, parce que ça préserve l'avenir. Vous l'avez dit, ça accélère la transition écologique. Est-ce que vous pensez qu'on peut remettre des lignes de production de petits bateaux en France sans faire ce qu'ils font d'ailleurs ? Moins de consommation d'énergie, du recyclage de vêtements. L'industrie d'aujourd'hui, c'est pas l'industrie d'hier. On a une industrie qui est plus économe en énergie, on a une industrie qui accélère la transition écologique. On a des nouvelles usines de batteries électroniques, de batteries de voitures, pardon, de microélectroniques, de pompes à chaleur, d'hydrogène. Tout ça, ce sont les nouveaux secteurs industriels. La France, elle est championne là-dedans.
Donc ça, ça coûte de l'argent. On a dit 54 milliards, ouais. C'est maintenu. La baisse de fiscalité pour la transition écologique, c'est maintenu.
Alors, on a aujourd'hui des crédits d'impôt industrie verte. Ils ont été votés dans le cadre de la loi industrie verte l'année dernière. C'est pas de l'argent gratuit. C'est de l'argent qui est prêté via des crédits d'impôt en échange, là encore, d'installations concrètes d'usines. La philosophie sur l'accompagnement de l'investissement de l'industrie, qui, je le répète, est la seule manière de régler nos problèmes d'emploi et de finances publiques à long terme, c'est donnant-donnant. Nous, on va vous accompagner. En échange de quoi ? Vous investissez, vous créez des usines, 201 de plus l'année dernière, et vous créez de l'emploi.
Ça veut dire ?
Dans des territoires où on en a beaucoup trop détruit.
Ça veut dire qu'on ne va pas toucher au crédit impôt recherche, qui est dans le viseur, on le sait, du gouvernement, pour faire des économies. On ne va pas toucher à la fiscalité, la CVAE, cet impôt de production qui devrait baisser dans les années à venir. Tout ça est maintenu.
Alors, moi, je ne fais pas le budget avant qu'il soit fait. Donc, vous savez qu'il y a une procédure budgétaire, il y a un Parlement qui doit quand même se prononcer. Donc, on va voir dans les semaines et dans les mois qui viennent comment on prépare ce budget, je le répète, avec rigueur et responsabilité. Le crédit impôt recherche, qu'est-ce que c'est ? C'est un crédit d'impôt qui, en échange d'investissement dans la recherche et l'innovation, permet de baisser les impôts des sociétés. Moi, je suis très attaché à ce principe. Est-ce qu'on peut l'adapter ici ou là pour le rendre plus efficace ?
Oui, l'exemple de Sanofi, beaucoup de crédit impôt recherche et pas de...
Oui, vous parlez de Sanofi aujourd'hui. On a des usines de médicaments qui réouvrent en France. Moi, je m'en félicite.
Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia.
Toujours avec Roland Lescure, le ministre délégué chargé de l'industrie et de l'énergie. Vous nous disiez en première partie, la réindustrialisation, c'est la seule manière de sauver notre économie. Il y en a d'autres dans la majorité qui pensent qu'il y a d'autres solutions, comme par exemple le président du Modem, François Bayrou, ou encore la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui appelle à revoir la politique fiscale en taxant notamment les super profits, les super dividendes. Vous êtes d'accord avec eux ?
Écoutez, en France aujourd'hui, moi j'en vois tous les jours, il y a des super entreprises qui sont super créatives, super innovantes, qui ont des super résultats et qui payent déjà des super taxes. Donc, pour l'ensemble de l'économie, moi je serais extrêmement prudent avant de dire taxons encore et davantage. Il y a un secteur qui est à part, un secteur, c'est le secteur de l'énergie. Vous le savez, pendant la crise énergétique, les prix de l'énergie ont monté. Et les entreprises du secteur énergétique ont fait beaucoup, beaucoup d'argent. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qu'elles soient créatrices ou pas, innovantes ou pas, elles ont eu ce qu'on appelle une rente.
C'est de l'inflation, oui.
Qui est tombée du ciel. Et donc, quand une rente tombe du ciel, il est normal, on l'a fait et va sans doute falloir continuer à le faire, que l'État prélève cette rente tombée du ciel pour la partager avec les Françaises.
Ça, ça veut dire que vous allez continuer à surtaxer les entreprises énergétiques.
Je pense qu'il y a des parlementaires aujourd'hui qui travaillent là-dessus, notamment Jean-René Cazeneuve, qui est le rapporteur général du budget, qui a dit qu'il souhaitait faire des propositions en ce sens. Quand une rente tombe du ciel, il est normal qu'on la partage avec les Françaises.
Mais vous entendez quand même, Roland Lescure, 146 milliards de bénéfices nets pour pour le CAC 40 en 2023. 97 milliards de dividendes, ces chiffres ne vous convainc pas à demander plus à ceux qui ont gagné beaucoup plus?
Non mais, et ces résultats, ils sont déjà, et heureusement d'ailleurs, soumis à l'impôt. Que des entreprises françaises aillent bien, non pas sur le dos des salariés, mais parce qu'elles sont créatives, innovantes,
oui, faut pas les taxer davantage.
Qu'elles créent de l'emploi. Oui. Non mais attention, je dirais, à pas casser un des piliers de l'économie française aujourd'hui, qui est qu'on a des entreprises, notamment industrielles, qui sont en train de reprendre le dessus dans la compétition internationale.
Roland Lescure, on a beaucoup parlé de la rigueur. Il y a un autre mot qui a fait son apparition hier chez votre collègue aux armées, Sébastien Lecornu, parle de réquisition. Réquisition d'industrie, de l'armement pour accélérer la production, pour aider notamment l'Ukraine. Ça veut dire quoi concrètement? Est-ce que des usines qui assemblent de l'électroménager, par exemple, se mettraient à produire des obus?
Alors, on va pas transformer des machines à laver en chars d'assaut, ça je pense qu'on n'ira pas jusque là, mais ce qui est vrai, c'est que dans la loi de programmation militaire, on a voté une disposition qui fait que si on a besoin, notamment pour des fournisseurs, de prioriser la production qui va dans des appareils militaires à de la production qui va dans des appareils civils, on peut le faire.
Et on en a besoin, aujourd'hui, on en a besoin.
Et on peut même aller jusqu'à procéder à des confiscations. Pour donner quelques chiffres, avant 2017, on commandait à peu près 9 milliards d'euros à l'industrie militaire par an. Depuis 2017, on est passé à 15 milliards. Et en 2022, pour 2023, on a commandé 20 milliards d'euros. Donc on a beaucoup, beaucoup augmenté les commandes.
Doubler la commande.
Et donc, il faut qu'on augmente beaucoup, beaucoup les cadences. Donc aujourd'hui, je dirais, c'est une conversation qu'on a avec les industriels de la défense.
Ça menace. Une menace, oui.
Ben, en tout cas, tout ce qu'on a voté peut être mis en œuvre. Si, c'est le cas de le dire, ils livrent la marchandise telle qu'on a commandée, tels qu'on les a évidemment prévenus. On se retrouve face à une guerre qui est aux portes de l'Europe. Il faut adapter notre appareil de production pour que face à cette guerre qui frappe, on puisse répondre et qu'on soit à la hauteur.
On a l'impression que c'est un problème de mauvaise volonté, c'est pas juste un problème de chaîne d'approvisionnement, de matières premières qui ne sont pas disponibles.
Non, c'est un sujet de montée en puissance d'une économie, l'économie des armes et des dispositifs militaires qui étaient plus dans le même rythme. Mais donc il faut qu'on les accompagne, il faut aussi peut-être qu'on mette un peu de pression, parce que, je le répète, il y a aujourd'hui des sous-traitants qui font à la fois du civil et du militaire. Quand on met la priorité sur les dépenses militaires, il faut que la priorité soit dans toute la chaîne de valeur.
Mais si on prend par exemple le cas d'Airbus, il faudrait produire, peut-être ralentir un peu la cadence sur les Airbus civils pour produire davantage d'avions militaires?
Non, dans Airbus, on est dans des lignes de production qui sont quand même très largement différentes. Mais il y a aujourd'hui des petites et moyennes entreprises qui fournissent des pièces détachées pour des missiles, par exemple. Des missiles dont on a besoin, notamment pour aider l'Ukraine. Ben oui, aider l'Ukraine, aujourd'hui, c'est la priorité des priorités. Il faut qu'on aide l'Ukraine à se défendre. Et pour ça, il faut qu'on puisse augmenter la cadence sur la production de missiles et donc sur les productions des sous-traitants qui fournissent nos missiles.
D'un mot, le Sénat a voté le financement des entreprises de la défense par le livret A et le livret développement durable, l'épargne des Français. Le texte doit être étudié par l'Assemblée. C'est une bonne chose pour vous?
Aujourd'hui, je pense qu'on vient de le dire, c'est moins un sujet de financement, la défense, qu'un sujet de capacité de production. On va regarder ce qui a été voté au Sénat et voir si on peut éventuellement en tirer quelques leçons, quelques idées dans le cadre du vote à l'Assemblée.
Mais vous y êtes pas favorable.
Non, mais aujourd'hui, la loi de programmation militaire, elle est financée, elle est prévue. Je pense que le sujet majeur, c'est la cadence de production et c'est là-dessus qu'il faut qu'on se focalise.
En parlant des armes, de l'industrie de l'armement, malgré le vote de la résolution de l'ONU exigeant un cessez-le-feu, les autorités israéliennes persistent à continuer la guerre et à bombarder Gaza. La France envoie des armes à Israël. C'est une information du média Disclose. Au moins 100 000 pièces de cartouches pour des fusils et mitrailleurs qui ont pu servir, selon Disclose, à la fusillade qui a tué des centaines de Palestiniens autour d'un convoi alimentaire il y a quelques semaines ont été livré. Sébastien Lecornu, votre collègue aux armées, a réfuté ces informations. Il indique que les livraisons à Israël ne concerneraient que des composants sous licence de réexportation, c'est-à-dire envoyées à d'autres pays qu'Israël, et qu'ils ont vocation, donc ces armes envoyées à Israël, à intégrer des systèmes purement défensifs. Est-ce que dans le doute, il ne faut pas juste arrêter d'envoyer des armes à Israël?
Non, je pense que Sébastien Lecornu a été très clair. La France n'exporte pas d'armes en Israël. La France exporte des pièces détachées qui sont intégrées dans les systèmes qui eux-mêmes sont exportés.
Mais ou utilisées sur le sol israélien?
Ben non, Sébastien Lecornu a dit que ce n'était pas le cas. Mais j'allais dire, l'essentiel est ailleurs aujourd'hui. L'essentiel, elle est sur le terrain. Où, vous l'avez dit effectivement, grâce à la France et grâce à un certain nombre d'États, on a enfin ça a pris du temps, réussi à faire voter une résolution
sans
des
résultat.
Nations Unies.
Donc la question qui se pose, c'est quels sont les autres leviers.
Et il faut qu'on continue à mettre la pression sur le gouvernement israélien pour que, d'ailleurs sur toutes les parties, parce que cette résolution, elle appelle à la fois la libération inconditionnelle des otages et un cessez-le-feu à Gaza. Il faut qu'on mette en œuvre cette résolution. Elle a été votée il y a 36 heures. Je pense qu'il faut continuer à mettre tout en œuvre pour que cette résolution elle soit suivie des faits.
Roland, moi, je crois. Si vous mettez à la place des pays du Sud global qui se disent, bah, attendez, que ce soit la France ou l'Union européenne se place pour un cessez-le-feu à Gaza, et de l'autre côté, ils envoient des armes aux Israéliens. Vous voyez bien
cette
position qui est un peu contradictoire.
Mais vous pensez vraiment que si on arrêtait d'envoyer des pièces détachées de fusils mitrailleurs qui sont réexportés en provenance de la France, qui représentent mais rien dans ce qui est aujourd'hui effectivement exporté en Israël par d'autres pays, et vous le savez, ce sont essentiellement les États-Unis aujourd'hui qui fournissent l'État d'Israël, je dirais, on se ferait plaisir pour pas grand-chose. Les symboles, c'est important. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on a besoin d'un cessez-le-feu sur le terrain, on a aussi besoin d'ailleurs de la libération inconditionnelle des otages, et que la France fait partie des États qui contribuent à la pression. Parce que, oui, c'est pas facile, mais depuis quelques mois, la France, qui a souvent été critiquée d'ailleurs, pour être insuffisamment ceci ou insuffisamment cela, fait partie des quelques États qui arrivent à pousser les feux des deux côtés pour littéralement apaiser la situation. Ce qui se passe est horrible, il faut que ça s'arrête, et la France aujourd'hui, elle contribue à ça.
Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Brakia.
Et Roland Lescure, ministre délégué en charge de l'industrie et de l'énergie. Lundi dernier, avant-hier, Bruno Le Maire a demandé à EDF de baisser ses tarifs pour les PME en renégociant certains contrats. Il a même théâtralisé tout ça en s'invitant au comité exécutif. Vous entendez la critique. En février, les tarifs étaient censés baisser, mais les taxes ont augmenté. C'était la fin progressive du bouclier tarifaire. Résultat, la facture a augmenté de 10%. EDF a bon dos.
Non, alors, d'abord, il faut quand même rappeler que grâce à des investissements qui ont été faits il y a 50 ans d'ailleurs, l'énergie, l'électricité en France, elle est décarbonée et moins chère qu'ailleurs. Ce qui est vrai, c'est qu'ayant protégé de manière très forte les consommateurs d'énergie pendant la crise énergétique, on retrouve aujourd'hui une fiscalité normale, on n'augmente pas les impôts, on retrouve les niveaux qu'on avait avant la crise. Et par ailleurs, il y a des entreprises, et notamment des TPE, des PME, la plupart des contrats d'électricité pour les entreprises sont plutôt aujourd'hui en train de baisser, mais celles qu'on signait au pire moment, la faute à pas de chance, à l'automne 2022, se trouvent avec des contrats qui, pour beaucoup, en 23, en 24, voire même en 25, se traduisent par des factures très lourdes.
Combien de contrats ça représente ?
C'est quelques milliers. L'essentiel des contrats aujourd'hui sont plutôt en train de voir pour les entreprises l'électricité baisser. Mais c'est vrai que ces quelques milliers, ce sont des entreprises qui souffrent. Et donc, ce qu'a demandé Bruno Le Maire, et c'est normal qu'il puisse s'inviter au comité exécutif. Je vous rappelle qu'on est actionnaire à 100%.
C'est le patron ou il y a un patron?
C'est l'actionnaire principal et unique quand même, je vous le rappelle. Donc qu'on puisse aller de temps en temps discuter avec les dirigeants d'EDF.
C'est bien de prévenir avant, il paraît que c'était un...
Il avait prévenu, il l'avait dit, j'étais là. Il y a plus d'un mois, quand on était en déplacement ensemble sur les enjeux électriques. Donc il avait prévenu, il est arrivé en prévenant. Il a demandé deux choses. Un... que dans les investissements futurs, je parlais des investissements qu'on a fait il y a 50 ans, on en fait aujourd'hui, qui vont permettre à nos enfants, à nos petits-enfants, d'avoir encore plus d'électricité décarbonée et pas chère dans 50 ans, de le faire de manière rigoureuse et responsable là aussi, et puis que pour les PME qui souffrent de contrats qui sont encore trop contraignant, qu'on puisse renégocier pour que les années suivantes voient les prix baisser.
Alors on a appris hier que l'autorité de sûreté nucléaire avait annoncé que l'autorisation de mise en service de l'EPR de Flamanville allait être ouverte à la consultation publique, mais avec du retard. Encore un retard pour l'EPR, est-ce que vous êtes inquiet?
Ça fait 12 ans qu'on l'attend. J'allais dire, on n'est pas à deux semaines près. Ce qui a été annoncé hier, c'est que d'abord...
Ah oui, carrément, vous lâchez, quoi.
Non, deux semaines. Attendez, l'autorité de sûreté nucléaire, ce qu'a dit hier, c'est j'ai terminé mes travaux et la procédure normale veut que je lance une consultation publique qui va durer 3 semaines, qui va nous amener au 17 avril et ensuite, je prendrai ma décision. Donc, on verra d'ici la fin avril quelle est la décision de la SN, mais voilà... Il restait 2 semaines de travail, ça fait 12 ans qu'on attend.
On n'ose pas vous demander un pronostic. Est-ce que ce nouveau réacteur sera branché avant l'été sur le réseau?
Oui, alors, bon, démarrer une centrale nucléaire, c'est pas comme démarrer une Clio ou une 208. Mmh. Ça prend un peu plus de temps. Donc, ce qui normalement va se passer, c'est qu'on va charger le combustible. Mmh. Donc, si tout se passe bien, après la consultation publique, donc d'ici la fin du mois d'avril, ensuite, il y a quelques mois de montée en puissance, et ensuite, la centrale tourne.
Donc, elle sera branchée avant la fin de l'année.
Ben, j'espère bien, en tout cas, après 12 ans, je l'espère bien. Mais surtout, je voudrais, là encore, peut-être voir le verre à moitié plein. On l'a attendu pendant longtemps. Cet EPR, il va tourner.
Il a coûté 4 fois plus cher que prévu. Hein, 13 milliards au lieu
de... Exactement. 4 fois plus cher, 4 fois plus longtemps. Mais, je dirais, on va apprendre de ces leçons et on va pouvoir construire des EPR de nouvelle génération, des EPR dits 2. Mmh. On va en construire 6, 3 fois 2, avec les leçons du passé, une capacité, là encore, à investir pour que nos enfants et nos petits-enfants bénéficient d'une électricité décarbonée et pas chère. Voilà, on a un champion.
Mais est-ce que vous les retenez bien, est-ce que vous les retenez bien, les leçons de l'EPR de Flamanville? Parce que pour les prochains EPR, justement, les EPR 2 que vous venez de citer, parce que selon les échos, la facture des 6 futurs réacteurs nucléaires EPR 2, eh ben, la facture aurait déjà grimpé de 30% pour s'établir à 67,4 milliards d'euros contre les 51 milliards prévus, annoncés initialement par EDF, ça commence mal.
Non mais ces chiffres qui circulent n'ont aucun sens en fait. Aujourd'hui, on est au stade, je dirais, pour simplifier, des croquis. On n'a même pas de devis détaillé. Donc c'est des estimations préliminaires qui sortent d'ailleurs, je ne sais pas trop d'où.
Vous avez fait un budget vous-même, hein, donc...
Non. Le gouvernement, l'État, le président de la EDF. République, le président de la République a demandé un budget détaillé pour les EPR d'ici la fin de l'année. Et on aura un conseil de politique nucléaire qui arrêtera à la fois les budgets et les calendriers. Et les deux vont vraiment ensemble, on l'a vu sur l'EPR 1. Et donc d'ici là, EDF travaille avec ses fournisseurs pour, je dirais, serrer les devis et s'assurer qu'on n'ait pas les mauvaises surprises dont il faut reconnaître qu'on les a eues sur l'EPR 1. Mais aujourd'hui, on est au stade des croquis, on attend les devis détaillés et on ne prendra, d'ailleurs comme tout le monde, une décision que sur la base de devis extrêmement détaillé.
Roland Lescure, vous allez vous rendre au séminaire gouvernemental sur le travail.
J'y vais là.
À Matignon. Vous qui vous dites de centre-gauche, est-ce que vous soutiendrez la diminution de la durée d'indemnisation des chômeurs qui semble être une piste du gouvernement?
Écoutez, aujourd'hui, la balle, elle est dans le camp des organisations syndicales et patronales qui sont en négociation.
C'est pas tout à fait ce que dit Bruno Le Maire qui dit qu'il faut que le gouvernement reprenne la main.
Ben, moi j'espère, en tout cas pour l'instant, c'est leur responsabilité qu'ils vont nous faire des propositions concrètes. Moi je l'attends. Vous savez, j'ai 57 ans moi. Le travail des seniors est le fléau français qui fait qu'aujourd'hui, les seniors travaillent beaucoup moins qu'ailleurs. Je le vois tous les jours dans mon environnement personnel. Il faut qu'on change ça. Le fait que des gens qui ont mon âge soient aujourd'hui considérés par des entreprises comme inutiles et au fond... considéré par la société comme inutile, il faut que ça change.
Sauf que là, la pression est mise sur les chômeurs, sur ces fameux seniors qui sont au chômage. Est-ce qu'il ne faut pas en fait mettre la pression plutôt de l'autre côté, c'est-à-dire du côté des entreprises pour les inciter à les garder en emploi?
Les deux, mon général, j'allais dire. On a aujourd'hui un équilibre qui fait que les entreprises ont tendance à ne plus investir dans les seniors. Et les seniors, bah, quand on leur propose effectivement un package, comme on dit, qui dit « vous allez pouvoir partir, toucher le chômage jusqu'à la retraite et vous arrêter là », ils ont tendance évidemment à le prendre et je le comprends. Donc il y a un vrai travail de fond à faire là-dessus et je le répète.
Sauf qu'on n'a pas la mesure pour les entreprises.
Non mais c'est la responsabilité des partenaires sociaux de nous faire des propositions. Moi je suis prêt à entendre des propositions à la fois pour les chômeurs et pour les entreprises. Ils sont là pour ça, le dialogue social, moi j'y crois. En revanche, il faut que ces responsabilités elles donnent lieu à des propositions concrètes.
On vous laisse filer à Matignon, Roland Lescure pour ce séminaire sur le travail. Ministre délégué chargé de l'Industrie, vous étiez l'invité de France Info. Je vous laisse en compagnie de Salia Braclia, les informer dans 5 minutes.